Hop là, nous voilà partis pour un petit audio sur une nouvelle préparation de course. Alors cette fois-ci, l'éco-trail à Paris. Quelle horreur. Avec un plan nutritionnel qui est assez simple, on va le voir ensemble. En amont, pour celles et ceux qui n'ont pas eu le superbe PowerPoint sur pourquoi l'éco-trail de Paris et globalement la saison 2024, puisque tout était dessus. Ça se retrouve sur mon site web, onglet Patreon pour vous. Pourquoi ça ? Hey, c'est vrai, habitant proche des montagnes, on pourrait se dire, c'est quand même beaucoup plus sympa de faire un hiver en skiant, en faisant des sorties longues en montagne, etc., etc. Et au lieu de ça, j'ai réalisé un hiver où j'allais les mardis soirs et jeudis soirs au club d'athlée pour faire des séances d'intensité à plat. Avec des gens qui courent vite. Des crosses où j'avais absolument aucune chance de gagner ou de briller de quelconque manière. Donc je mettais des dossards pour prendre des roustes. Et puis là, c'est éco-trail avec, on le verra tout à l'heure, quelques favoris qui ont un peu plus l'habitude. Encore qu'ils ne sont pas très nombreux. Alors pourquoi ça ? Eh bien, il y a deux buts. Donc le premier objectif était un constat suite à l'UTMB l'an dernier. Donc j'ai réalisé un document de 35 pages pour expliquer ma course et comment elle est améliorable. Et bien pour l'améliorer, en fait, le constat c'était qu'il fallait s'améliorer soi-même. Eh oui. Et pour s'améliorer soi-même, il n'y a pas 36 solutions, même si vous avez toujours un YouTuber qui va vous sortir l'exercice magique qui n'existe pas uniquement dans son cerveau malade, il faut courir plus vite. Parce que quand vous courez plus vite, vous tirez tous vos seuils vers le haut. Donc ça, Sylvain Cachard l'avait expliqué. Je crois Lord Cyrzinal, Nicolas Martin l'a expliqué dans le e-book. Bon, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Basique même, comme diraient certaines personnes. Donc il faut courir plus vite. Partant de ce constat, on reprend une licence à Aix-les-Bains, on se reconcentre sur les crosses, on ne fait pas un trail de 60 bornes début décembre, comme ça on peut vraiment être au club non-stop. Et du coup, je fais les Templiers le 20 octobre, je coupe une semaine, je reprends doucement pendant une autre semaine, et la troisième semaine était plutôt normale, avec peut-être 40 ou 50 km de footing. Et puis après, on était parti au club, les crosses, donc mi-janvier, fin janvier, mi-février. Et puis ensuite, l'apothéose, en fait, ça a été le bloc final de préparation à cet éco-trail. Où le lendemain du cross, j'ai effectué un marathon sur route en 2h45. Et 2-3 jours après, j'ai effectué une nouvelle séance un peu typée marathon. Voilà. Et là, on était à 3 semaines, on était, entre guillemets, à la fin du bloc pour l'éco-trail. Et l'éco-trail célébrera un peu la fin du travail de vitesse, puisqu'ensuite on fera un mix. Mix qui me permettra de participer à la pastourelle. Et une fois que la pastourelle sera passée, nous nous orienterons vers des choses un peu plus typées ultra-trail. Et à ce moment-là, on sera fin mai. Et donc on aura visité fin mai tous les registres à plat. On aura ensuite visité tous les registres en côte, puisque la pastourelle, il y a 60 km et 3000 mètres de dénivelé. Ça veut dire que pour la tête de course, on va devoir tout monter en courant à des allures cardiaques assez élevées. Donc on va, cette fois-ci, bosser le physio dans les bosses, avec quelques rappels à plat, et puis après on part sur vraiment une préparation ultra. Donc vous voyez, cet éco-trail finalement avait toute sa place pour progresser à l'UTMB 2024. Même si, évidemment, il y a d'autres paramètres, celui-ci paraissait essentiel. Et le seul moment, entre guillemets, pour le bosser, c'est l'hiver. Puisque plus vous vous rapprochez de la date, plus il faut faire du spécifique. Et le spécifique à l'UTMB, étant donné que le vainqueur fait à peine du 8 de moyenne, le spécifique n'est pas la vitesse. Le spécifique est tenir longtemps dans la durée, etc. Donc quand vous rapprochez de l'UTMB, vous faites des sorties longues doucement. Voilà. Et étonnamment, surprise, c'est ce que tout le monde fait. Et la deuxième raison à la présence de cet éco-trail, c'est le challenge national FFA. Donc c'est sorti l'an dernier, je ne sais plus trop quand, peut-être au cours de l'été, je ne me rappelle plus. Donc la FFA annonce revisiter son trail tour national qui avait perdu en saveur avec un peu trop de courses, personne ne se confrontait vraiment. Et ils ont voulu trouver à la fois quelque chose de plus compétitif, donc moins de courses, et une sorte de concept un peu, un truc un peu sympa, un peu rigolo. Et donc ils ont proposé un classement, où pour intégrer ce classement, vous devez faire une course plate. Et là, on a le choix entre le Sparna Trail qui a eu lieu mi-novembre et l'Eco Trail de Paris qui a lieu ce week-end, là, demain. Et vous devez participer à une des deux courses. Il n'y a pas d'excuse, oui, mais moi, j'étais chez ma tata, du coup, j'ai pas pu la faire, puis c'est trop loin, il faut absolument une course. Il faut que les championnats du monde se déroulent dans mon salon parce que je refuse d'utiliser ma voiture plus de 30 secondes. Voilà. Il faut qu'on ait tous tout à côté de chez nous. Voilà, ça, c'est l'homme moderne. C'est pas possible. Celui qui râle, en fait, se fait cartonner et éjecter du circuit. Soit tu fais le Sparna Trail, soit tu fais l'Eco-Trail de Paris. Et il y a une troisième option, c'est celle de fermer ta gueule. Voilà, t'as trois choix. À l'issue de ça, nous avons les manches de moyenne montagne. Donc les manches de moyenne montagne, c'est... Moi, je vais participer à la pastorelle. Et il y a une deuxième manche, il me semble que c'est... Loisan Trail Tour. Sur le format 40. Ou alors le 60 du trail des passerelles, je sais plus. Et ensuite, vous avez la haute montagne. Donc la haute montagne, c'est le format long Gérard Mé Trail des Vosges. Et la 6000D. Moi, je vais faire la 6000D. Et donc, avec cet éco-trail, cette pastourelle et cette 6000D, eh bien, je vais être classé au Challenge National FFA. Alors, deux intérêts d'être classé là-bas. Premièrement, l'argent, puisque le premier va toucher 6000 euros et le cinquième, 1000 euros. Le sixième, il aura rien. Voilà. Il y a un prize money sur les cinq premiers qui est relativement conséquent et pour une fois que la FFA se mouille, je trouve que c'est pas mal. Et la deuxième raison, c'est aussi que ça permet de faire un circuit sur le papier relevé en France. Alors, visiblement, vu le plateau de l'éco-trail, ça a capoté. On n'est pas arrivé à avoir un plateau relevé. Je pense que la problématique majeure, c'est le championnat de France qui a lieu le 7 avril. Et du coup, Eco Trail de Paris 16 mars, championnat de France 7 avril, ça n'est pas possible de réaliser les deux au meilleur niveau. D'ailleurs, j'ai laissé ma participation au championnat de France, j'irai en tant que speaker. Mais il n'y a pas de... Ouais, je pense que les dates sont mauvaises là-dessus. Alors la FFA fera un bilan en fin d'année. À mon avis, il sera un peu déçu parce que, je vous le répète, si vous n'avez pas participé au Sparna Trail et à l'Eco Trail de Paris, vous ne pouvez pas être dans le classement. Même si vous vous appelez Key Internet, ça n'est pas possible. Il faut faire une des deux courses plates. Sur le Sparna Trail, on a vu du Aurélien Collet, du Yann Gutterman, mais ça restait assez gentillet. Alors je publierai, lors du retour de l'Eco Trail, je publierai justement le classement après les deux premières étapes à plat, et on prend le meilleur résultat des deux. Typiquement, Aurélien Collet avait gagné le Sparna Trail. S'il vient et qu'il fait deuxième de l'éco-trail, alors c'est pas le cas, il n'est pas inscrit, mais s'il le fait, on garderait son résultat du Sparna Trail, puisqu'on donne des points en fonction de la place. Ce qui laisse aussi imaginer des courses où, une fois qu'on est en tête, c'est pas la peine de faire le bourrin pour gagner avec 25 minutes d'avance. Vous pouvez gagner avec une minute d'avance sur le deuxième, c'est pareil, vous avez le même nombre de points, donc on peut aussi gérer sa saison. Et donc moi j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a le côté je retrouve un gros niveau en France, donc voilà, l'éco-trail de Paris, la pastourelle et la 6000D. Alors évidemment vous allez me dire finalement t'aurais voulu retrouver du gros niveau, en fait t'aurais fait le trail du Ventoux et puis t'aurais fait le championnat de France. Oui c'est vrai, mais si tout le monde réfléchit comme ça, à un moment donné on n'arrivera jamais à mettre en valeur un circuit national, parce que c'est des courses épisodiques. L'an prochain, la date du trail du Ventoux sera peut-être pas bonne, du coup il y aura moins de favoris. Enfin, même cette année, hein, une fois que tu avais enlevé les trois premiers, Bon, allez, les 5 premiers pour aller jusqu'à Simons, pour qu'il soit content, on me dit. Je sais pas s'il est allé en train à Bédouin ou en vélo ou à d'autres chameaux, là, j'en sais rien. Mais voilà, ouais, du coup, on participe à l'éco-trail pour le challenge. Et puis, si c'est un anonyme qui gagne les 6000 euros, le premier, entre guillemets, élite couvre sa gueule, on va vite lui répondre. Écoute, mon coco, il suffisait de se baisser pour ramasser ça, tu t'es pas baissé, tant pis pour toi. À un moment donné, va pleurer dans ta chambre, là, et laisse-nous tranquille, entre gens intelligents, tu vois. T'es idiot, quoi. On peut pas... À un moment donné, on va pas tous te prendre par la main pour t'amener, pour te montrer comment ça se passe. Et puis, tu veux quoi? Qu'on te fasse des dons aussi, il faut qu'on te fasse des donations, parce que tu le mérites, suivant ta propre directive. Enfin bon. Donc, l'éco-trail. Alors, hormis quelques petits rhumes à droite à gauche, liés au fait de réaliser du sport outdoor tous les jours durant l'hiver, et c'est vrai, si j'aurais pu rester chez moi, effectivement, j'aurais été moins malade. Ouais, ça marche aussi, ouais, ne rien faire. D'ailleurs, si vous voulez pas vous blesser en course à pied, c'est facile, ne courez pas. Ça marche. Donc, caractéristiques, je prends le document, ouvrez-le tous, page 1, nous allons faire la lecture ensemble. Départ à 11h30. Alors ça, c'est très agréable, parce que du coup, tu peux te lever tranquillement, même si moi, je dors jamais tard. Tu peux déjeuner de manière relativement conséquente, et t'as le temps de digérer jusqu'au départ. Tu peux te rendre au départ malgré une circulation peut-être hasardeuse, des transports en commun un peu longs. Voilà. Ce départ à 11h30, c'est pas mal. En plus, pour la tête de course, bah, ça te fait arriver... Alors, je pense que les meilleurs vont mettre moins de 6h, donc ça les fait arriver avant 17h30. C'est assez agréable, on court aux meilleures heures de la journée, ce qui, l'hiver, est pas mal. Donc cet horaire est très propice à la performance. Contrairement à la Varedo, vous partez à 23h et vous vous tapez une nuit blanche, alors que la tête de course pourrait faire la course de 8h à 20h. Bon, bah voilà, il faut se taper une nuit blanche. Dommage, parce qu'en plus, on ne voit pas les paysages. Le parcours, alors il est annoncé sur Trace de Trail à 81,4 km et 1385 mètres de dénivelé positif. J'ai regardé les Strasse Strava des dernières années, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait 80 bornes. Ça se situait entre 75 et 79 km. Alors, bon, je sais pas, je verrai pourquoi. Et les 1385 mètres de D+, c'est pareil, on est plus dans l'ordre du fantasme. La réalité est plutôt autour de 1200. Et quand on regarde le parcours, évidemment, c'est tout plat à l'arrivée. Sauf la Tour Eiffel, qui représente 100 mètres de dénivelé à peu près. Et c'est quasiment tout plat pendant 15-17 bornes. Après, il y a une descente très progressive. Et après, il y a une remontée, pareil, très très progressive. Et après, on attaque le dénivelé. Donc disons qu'il y a 1000 mètres de dénivelé entre le kilomètre 23 et le kilomètre 67... Même 65, parce qu'après, ça descend un peu dans Saint-Cloud. Enfin bon. Disons que c'est pas... Voilà. Ça nous divertira un petit peu, mais globalement, on va courir. 4 ravitaillements autorisés à l'assistance. Alors, je crois que si vous êtes un gueux standard, vous n'avez pas le droit à ça. Il me semble que c'est réservé alors, à ce qu'ils appellent, eux, des élites. Donc il y a une différenciation, il y a 2 espèces de trailers au début, 2 races. Donc vous avez la race des élites et la race des, je sais pas comment on peut les appeler, les gueux, les mécréants, les sans-lapis, les bouseux. Ah, les bouseux, hein, parce qu'il y a pas mal de boue sur le parcours. Peut-être il faudrait les appeler les bouseux, tu vois, les élites et les bouseux. Ce serait bien, comme ça, on galvaude trop le terme élite. Il faut vraiment qu'en face, on mette le mot « bouseux » pour que le terme élite, vraiment, putain, ça fait classe, quoi. Et à côté, « bouseux », quoi. « Bouseux ». Le bouseux arrive. Ouais. Je déteste cette appellation d'origine protégée. Donc, 4 ravitaillements autorisés à l'assistance. Écoute, je suis en désaccord avec le concept philosophique du truc. Mais étant donné que je vais me battre contre des gens qui vont peut-être même se ravitailler hors zone, parce que je crois qu'il y a un coureur d'Azix, je ne vais pas me priver de mon assistance. parce que ça va se jouer à quelques minutes, ça va très vite. Si mon concurrent y a droit, moi je veux aussi. Voilà. Maintenant, si on supprimerait l'assistance, je n'en aurais que foutre et je trouverais ça intéressant aussi. Le matériel obligatoire, relativement sommaire, hein, bon, on est autour de Paris, donc il peut pas nous arriver grand-chose, encore que avec les énergumènes qui traînent autour de cette ville. Matériel obligatoire, 1,5 litre d'eau, donc là c'est assez simple pour moi, j'aurai deux flasques à l'avant qui seront remplies sur les deux premiers ravitaux, après j'en aurai plus qu'une de remplie, l'autre sera vide et sera toujours là, et une autre flasque sera dans mon dos, parce que je prends le sac. Le gobelet dans le dos, lampe frontale avec pile de rechange. Donc là, on voit que l'élite doit se mettre au rang du bouseux. Puisque l'élite n'a pas besoin de lampe frontale, il va finir avant la nuit. C'est le bouseux qui a besoin de la lampe frontale. Et l'élite, en plus d'être un élite, est doté d'une gentillesse remarquable puisqu'il supporte le poids d'une lampe sur son dos pour faire plaisir au bouseux qui lui doit la prendre par obligation, par nécessité. Voilà. Le brassard réfléchissant. Alors ça, c'est emmerdant parce que j'ai reçu mon dossard par la poste et je n'ai pas reçu mon brassard. Donc je vais devoir le demander au départ, mais ce n'est pas très grave parce que je dois aussi leur demander la balise. Et parce que l'élite a une balise. Ben, le bouseux, on s'en fout, il va errer dans la forêt comme un gogol. Par contre, l'élite, on le surveille, tu vois. Couverture de survie, bon, ça c'est tout à fait classique, portable. Et une pièce d'identité. Je pense qu'il est déjà arrivé que des gens se donnent le dossard à l'écoterie de Paris. Et du coup, il faut contrôler l'identité de la personne pendant qu'elle court. Je pense qu'on peut tout voir là-bas. Enfin bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui ! Un point sur l'organisation, sachez que lundi, je m'étais inquiété de ce brassard réfléchissant et j'ai envoyé un message à l'organisation. Je leur ai dit, bah voilà, je l'ai perçu par la poste. Comment on fait, quoi ? Est-ce qu'il faut que je... Parce que moi, j'arrive en train le vendredi soir à 19h30. Donc, je pourrais pas aller sur le salon du running, là, ou je sais pas quoi. L'organisation me répond en 5 minutes. On était lundi, 8h20. 5 minutes après, j'avais ma réponse de l'organisation. C'est impressionnant, quand même. La réponse de l'organisation, bah vous inquiétez pas, au départ, il y aura une sorte de tente ou un coin où on les distribue, en fait. Donc voilà, vous penserez à arriver un petit peu tôt, puis à venir le prendre ici. Pas de problème, moi j'ai prévu d'arriver pour 10h à 10h30 sur place, tranquille. Donc l'organisation est très carrée, très sérieuse, je trouve. Alors, on y va. Départ de Saint-Quentin en Yvelines. Comment j'ai fait pour pronostiquer les chronos ? Je suis parti sur un chrono optimiste. Et vu que cette année, visiblement, il y a beaucoup de boue, il est possible que mon chrono soit à réviser. Mais bon, c'est dur à anticiper, parce que évidemment, les gens vous prennent en photo les endroits très très boueux, mais pour 1 km boueux, vous avez peut-être 4 km secs ou bitumés. Donc c'est dur d'avoir une vision globale de la course, et même si l'an dernier c'était peut-être plus sec, voilà, chaque année il y a un petit peu son lot de surprises, et c'est pour ça qu'en 10 ans, le vainqueur est allé de 5h25 à 6h05. Donc 6h05 c'était Emmanuel Messa, une année calamiteuse, 2018 je crois, où l'eau avait débordé absolument partout, et 2016 j'imagine une année plutôt sèche avec une météo agréable, puisque Nicolas Duhail avait mis 5h25, Nicolas qui est malheureusement blessé et qui ne prendra pas le départ cette année, mais lui, il a tous les chronos, hein, de 5h25 à 5h55, il a fait le trail 5 ou 6 fois, il a tous les chronos, quoi. Et il a fait également toutes les places à l'avant de la course. Donc moi, j'ai pris les temps de Benedikt Hoffmann l'an dernier, parce que c'est quelqu'un qui est parti relativement doucement, donc la tête de course réalise une moyenne d'à peu près 16,5 km/h sur les 24 premiers kilomètres, avec 220 mètres de dénivelé positif. Et Benedikt Hoffmann, qui termine deuxième en 5h50, en fait ça m'a un peu excité le challenge de passer sous les 6h, Benedikt était parti lui dans un espèce de second groupe, voire de troisième groupe, à 15,2, 15,3 km/h de moyenne. Et je me suis dit que c'était pas mal. Alors, c'est même la limite haute. Ce qui fait que je ne m'interdis pas d'arriver avec 2-3 minutes de retard dans la magnifique ville de Buc. Donc, j'ai marqué 1h32 de course. Vous venez de l'entendre, ça pourra être 1h35 sans problème. C'est pas gênant. Et j'ai prévu pour ça deux flasques avec 2 grammes de BCAA dans chacune des flasques, 35 grammes de maltodextrine bio de manioc, donc avec le dextrose équivalent le plus bas possible. Cette maltodextrine représente, donc 35 grammes représente 30 grammes de sucre, d'accord, de glucides. 200 ml de ceinture, dégazéifiée, et je comble le reste avec de l'eau. Donc pour celles et ceux qui me suivent, c'est ce que je bois depuis à peu près 2020. Donc il y aura très peu de surprises sur la boisson. Ensuite, je prends deux gels Baou. Donc là, c'est les. J'ai le droit de vous en parler. Avant, j'ai écrit proto, je crois, au Trail des Templiers. Donc, chaque gel contient 30 grammes de glucides. J'ai les framboises et les abricots là qui sont sortis. D'autres goûts vont arriver. Je sais plus quand, j'ai pas retenu la date. Et donc là, en 1h30, du coup, j'aurai 120 grammes de glucides, ce qui représente 80-85 grammes de glucides à l'heure. Et c'est ce que je vais viser sur l'intégralité de la course. Et on va rester systématiquement à base de gel Baou. Pourquoi ? Parce que on va courir tout le long. Donc l'estomac va être vraiment mis à mal. Il n'y aura pas de... Bon, peut-être qu'il y a une montée qui va être trop boueuse et qu'on va marcher, mais ça va être vraiment anecdotique par rapport à un Templier où là, il y a quand même des temps de marche de 5 minutes par moment. Là, on va vraiment tout courir. Et souvent sur du plat, donc souvent à peu près à 15 km/h. Du coup, pour ingérer les glucides, mieux vaut une forme la plus liquide possible. Donc une fois que j'arrive au ravitaillement de Buc, ouais, je vais consommer un peu... Non, pas d'eau, non. Je ne vais pas consommer d'eau. Puisque les deux flasques, c'est déjà pas mal, tu vois. Sur 1h30, boire 1 litre. Sachant qu'on va avoir, donc si la météo se maintient, bon là maintenant, c'est joué quoi. On va avoir un peu de nuages, de soleil et 15-17 degrés dans l'après-midi peut-être. Donc on devrait être pas mal, vraiment la très bonne température pour courir. Bon, vu que j'ai le sac par-dessus le t-shirt, de simples manchettes devraient suffire. Il est même possible qu'on les enlève. Voilà. Que dire de plus après là-dessus ? Donc j'arrive au ravito suivant. Donc là nous serons dans la magnifique forêt de Meudon. Forêt de Meudon. Là j'ai encore prévu 1h40 de course. Et donc je prévois presque le même ravitaillement, à ceci près que j'ajoute un gel Baou. Ouais, parce que ça fait... Ouais, 1h40 de course. Voilà. C'est encore une grosse section, hein, parce que vous voyez, on a fait 23,7 km la première fois, là on va en faire 23,1. Et au lieu d'avoir 220 mètres de dénivelé, on va en avoir 500, donc ça va être un peu plus dur. C'est pour ça que j'ai mis 10 000 de plus. Au ravitaillement de Meudon, ça commence à sentir bon, hein. T'as fait plus de la moitié du dénivelé, plus de la moitié de la distance. Et donc c'est pour ça que c'est pas débile d'avoir 3h12 de course. Mais il reste encore une grosse partie, je vais pas dire montagne quand même, mais une grosse partie. Ouais. Au ravitaillement de Meudon, ça va être assez rapide, puisque derrière on part pour 10 bornes et 220 mètres de dénivelé. Donc ça peut se courir à presque 15 km/h. Moi, je crois que j'ai visé un petit 14. Et ouais, voilà, 44 minutes pour aller au ravitaillement de Chaville. Du coup, 44 minutes, j'ai besoin d'une seule flasque et d'un seul gel. Ce qui, finalement, en 44 minutes, est assez... Tu vois, faut déjà y bouffer et y boire hein, quand même en 44 minutes. C'est pas hyper facile. Ensuite, au ravitaillement de Chaville, donc là, on va prendre la direction de Saint-Cloud. Pour se faire ravitailler vraiment à la sortie au niveau de la balustrade. Et là, on a une section qui est un poil plus longue. On a 13,5 km et 300 mètres de dénivelé. Donc, je crois que j'ai visé une heure. Ouais, ça fait du 13,5 sur un... Sachant qu'on sera déjà à 4 heures de course, donc ça commencera à être dur. C'est pas déconnant, alors c'est pas facile non plus, mais normalement, c'est un petit peu ce à quoi je me suis préparé. Et là, donc, pour une heure, je ne prends qu'une seule flasque. Et à mon avis, j'aurai un petit reste de la flasque d'avant. Ça va s'équilibrer gentiment. Plus de gel baou. Voilà, pour une heure d'effort. Donc ça fait un gel toutes les 25 minutes. Quoi. Au niveau de Saint-Cloud, donc là, c'est le dernier ravitaillement avant de se diriger vers la Tour Eiffel. Il restera 10-11 km à peu près. Et puis 100 mètres de dénivelé, donc ceux de la Tour Eiffel. Là, c'est pareil. Je me ravitaille assez vite puisque je ne vais prendre qu'une seule flasque avec deux gels, donc ça peut être un ravitaillement à la volée. Et voilà, je remercie mon patriote Alexandre Géanin qui va me ravitailler. Alors Guillaume Cornu, autre patriote, lui fait la course et donc c'est son ami Julien qui va le ravitailler, qui va voilà nous voir également. Que dire de plus, pour rallier la Tour Eiffel, j'ai prévu moins d'une heure, parce qu'il y a 11 km presque, 10,8, et 112 mètres de dénivelé, alors ça c'est la montée de la Tour Eiffel. Après là, ça peut être très variable, parce que... Alors j'ai envie de faire une belle course, un bon chrono, etc. Mais... Si je suis, par exemple, quatrième, et que devant moi, c'est assez loin, et que derrière moi, c'est assez loin, bah, je vais pas forcer outre mesure, en fait. Puisqu'il n'y a que la place qui compte pour avoir les points au challenge national FFA. Donc là, je verrai un peu comment ça se goupille. Alors, parlons maintenant des favoris. Les favoris, alors moi, je pensais qu'il y allait en avoir un petit paquet. Et en fait, pas tant que ça. Donc, le premier des favoris, quand on ouvre le live try, c'est Didrik Hermansen. Je n'ai aucune idée s'il vient ou pas, j'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il vient, c'est un costaud. Bon, le mec doit courir à haut niveau depuis 2015, 16, il avait gagné la Trans Gran Canaria. Je crois qu'il a disparu un peu après le Covid, mais vous voyez, là, ça fait 2 ans qu'il tourne vraiment à plein régime. Cinquième de la Saint-Élion, il était quoi, 4 minutes derrière Chassagne, qui est troisième. Donc, voilà, c'est un peu... Le mec, plus fort que tous les autres, bon, du coup, à voir comment il court. Mais c'est le grand favori. Alors après, Thomas Balabo, malheureusement, Thomas est un peu sujet aux blessures, là, durant l'hiver, donc il prendra pas le départ. Pour l'instant, il en est à courir 20 bornes. Et donc, on tombe sur Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte. Et là, je vous présente pas l'énergumène. Je me rappelle plus si finalement il va faire l'aller-retour à l'éco-trail. Bon, s'il fait l'aller-retour, il a aucune chance. Mais s'il fait la course réellement, sachez qu'Alex a déjà mis 6h20. Donc, c'est vraiment bien, sachant que c'était en 2021 ou 2022. Donc l'animal a sans doute progressé depuis. Peut-être qu'il peut se rapprocher de 6h10, voire 6h. Donc, attention. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, lui, il court à 13 de moyenne. Parce que chaque semaine, il court 20h à 13 de moyenne depuis 3-4 ans. Donc, aucun problème. Après, on a Frédéric Pomerol. Alors, Frédéric Pomerol, je sais pas ce qu'il fait là, il s'est perdu peut-être. Mais le mec n'a jamais fini une course de plus de 50 bornes. Jamais. Il abandonne une course sur deux. Quand vous en faites 10 par an, ça fait quand même 5 abandons par année. Je ne le connais pas, c'est très étonnant. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Mystère et boule de gomme. Est-ce qu'il veut peut-être pas jouer le challenge? Je sais que c'est quelqu'un qui est très fédéral. Alors peut-être qu'il s'est entraîné tout l'hiver pour ça, hein, j'en sais rien, vraiment, je le connais pas. Mais sur le papier, il part vraiment pas gagnant. Par contre, ouais, il va peut-être animer la course pendant 3-4 heures, et puis bon, après, il se passe ce qui se passe. Andrea Macchi. Alors, lui, je lui avais mis une énorme branlée sur un trail saucisson en Italie. Alors que j'avais pas été ouf en 2021. Il cote à 814, je ne sais par quel procédé fumeux. Bon, à 10e du mi-août 2023, ça vous excite peut-être un petit peu, mais il était quand même 40 minutes derrière le 9e, qui n'est pas Jim Wamsley mais Patrick Boire, donc c'est pas ouf. Et il fait pas mal de courses en Italie, mais soit c'est un ultra montagneux, soit c'est un 30-40 bornes, un peu montagneux aussi. Donc l'imaginer courir à 14 km/h pendant 6 heures me paraît hasardeux. Bon, après vous avez moi. Je me suis bien préparé. Et hormis ce petit rhume qui traîne, qui permet peut-être pas d'être à 100%, mais pas loin quand même, devrait être pas mal. Après Nicolas Duhail, alors malheureusement Thomas Balabo m'a dit qu'il était blessé également, donc bah, ça c'est un peu dommage parce que c'était quand même la superstar du coin quoi. C'est... Il lui avait mis le dossard 1 d'ailleurs. Camille Tominet. Alors Camille Tominet, je le mets souvent dans la revue de presse parce que je le connais un petit peu, c'est un ancien pro en vélo qui est de la région parisienne d'ailleurs. Et il s'est mis au trail de manière vraiment brutale puisqu'il est tout de suite allé sur des ultras. Et vous voyez, l'an passé, il est pas mauvais en plus, ce con, hein, parce qu'il est tout petit, tout maigre. Tu te dis, qu'est-ce qu'il fait dans la montagne? 11e de l'Ultra Tour du Beaufortin. Bon, il cote à 740 d'index, c'est pas formidable, mais le mec est costaud. Il finit quasiment tout le temps. Courir à plat, pourquoi pas? Alors, il avait déjà fait les co-trails en 2022. À mon avis, il a beaucoup progressé depuis. Il avait couru en 6h35. Mathieu Debroy. Alors, ça c'est un peu une interrogation. Comme Frédéric Pomerol, que fait-il ici? Il fait jamais de course plate. Il a jamais dépassé les 50 bornes en course. Ça c'est des gens, t'as beau me dire, ouais, il s'est préparé, machin, truc et tout. Courir 80 bornes, c'est quand même... je pense la première fois ça te calme, quoi. Et si tu pètes et que tu cours à 9-10 km/h sur les quais de Seine, parce que c'est ce qui peut se passer quand tu découvres la distance, bah, tu perds énormément de temps, quoi. T'imagines, tu perds une minute par kilomètre par rapport à quelqu'un qui court à 12, et 2 minutes par kilomètre par rapport à quelqu'un qui court à 15, donc entre 10 et 20 minutes, quoi, potentiellement. Ouais. Après, on a Bastien Janetta. Alors, lui, il est un petit peu plus jeune que moi. Il doit avoir 4 ans de moins que moi, il me semble. C'est un mec un peu du sud. Et c'est pareil, on se demande ce qu'il fait ici. Alors, Bastien Janetta, c'est quelqu'un d'assez fort, mais qui performe de manière irrégulière. Des courses plates, il n'en a pas trop fait. Maintenant, l'an passé, les championnats de France de trail longue distance étaient relativement... Bon, il y avait 63 bornes et 2300, c'était pas très pendu. Et Bastien est quand même fait 15e, hein, juste devant Pierre-Arnaud Bourguignol, juste devant Emmanuel Gault. Donc le mec est là, quoi, tu vois, je pense que ça c'est un bon concurrent, tu vois. Moi je vois bien Hermansen largement au-dessus. Et puis derrière, des mecs qui partent trop vite, qui explosent, mais un Bastien Janetta qui reste un peu autour de moi longtemps, ça me choquerait pas, ouais. Après, on a Diego Filieu, donc lui, c'est celui qui le court en chaussures de route carbone. Donc là, si, vu la boue, s'il s'entête, c'est même pas la peine de prononcer son nom. Et le mec a quand même couru en 6h28 en 2022. Donc, vous voyez, c'est un gars qui court un peu comme casquette verte sur un 80 bornes à sec. Donc pas mauvais, quoi. Et après, je vous en présenterai un dernier, puisque derrière les cotes, on voit que c'est assez dense, hein, les cotes. Donc moi, je suis à 807, derrière c'est 805, 804, 802, 781, 778. Et après, ça se suit jusqu'à 720, 730. Hein, donc on voit, c'est possible qu'il y a un très très beau peloton hein, dès le début. Et donc après, Damien Loitron, 30e du championnat de France à la Cité de Pierre, plutôt pas mal. Maintenant, il a déjà couru les Cotrail en 6h24, donc c'est pareil, c'est un peu comme Diego, un peu comme Alexandre. Le gars est là, quoi. Le gars est là. Voilà. Bah écoutez, je vais terminer mes affaires, et je vous laisse là-dessus. Et on se donne rendez-vous sur le live try demain, samedi 16 mars, à 11h30 pour cette petite course.